Certaines vieilles personnes n'ont plus toutes leurs facultés intellectuelles et se répètent souvent. Mais on l'accepte. Par contre, quand c'est quelqu'un de normalement constitué qui rabâche sans arrêt les mêmes choses, ça devient vite lassant. Jérémy a écrit un petit livre qui s'appelle « Les Lamentations » et qui n'a que 5 chapitres. Alors on aurait pu penser qu'en arrivant au 4e, il changerait de registre. Eh bien, pas du tout. Il se lamente toujours et encore. Il a bien eu quelques sursauts de foi, mais n'arrive pas vraiment à négocier avec lui-même la dure réalité de la destruction de Jérusalem et l'exil de son peuple. Je commence à lire ce chapitre 4 qui commence par le même mot interrogatif que les précédents. Comment l'or est terni, l'or pur s'est altéré, les pierres saintes ont été dispersées à tous les coins de rue. Comment se fait-il donc que les précieux fils de Sion, estimés comme de l'or fin, soient maintenant considérés comme des pots d'argile, ouvrage d'un potier? Versets 1 et 2. De mémoire, le prophète se transporte au dernier jour du siège de Jérusalem et en décrit toutes les horreurs. Tout au long de cette complainte, il contraste la grandeur passée du peuple de Dieu avec sa destruction présente. L'or était l'un des emblèmes d'Israël qui, ailleurs, est aussi appelé « peuple précieux de l'Éternel ». Leur fin représente ici les jeunes gens, le futur de la nation. Mais l'exil en a fait des pots d'argile, c'est-à-dire des esclaves. La guerre est comme une gomme qui efface ce qu'il y a de plus précieux dans un peuple, son futur potentiel. Il me faut préciser qu'il n'y a aucun mal à être un pot de terre tant qu'on obéit à Dieu. L'apôtre Paul écrit « Si quelqu'un se garde pur, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Aux noces de Cana, Jésus a utilisé des jarres de pierre ordinaires dans lesquelles il a transformé l'eau en vin. Ce qui compte, c'est le contenant plus que le contenu. Je continue le texte. « Regardez les chacals, voyez comment les mères nourrissent leurs petits en tendant leurs mamelles. La communauté de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du bébé s'attache à son palais tellement il a soif. Les tout petits enfants réclament quelque nourriture et nul ne leur en donne. » Versets 3 et 4. « Tout comme l'autruche néglige ses petits à cause du siège de Jérusalem, les femmes israélites sont dans l'impossibilité de s'occuper de leurs bambins qui meurent dans leurs bras, tandis que d'autres parents affamés mangent les quelques aliments dont ils auraient pu nourrir leurs enfants. Ces atrocités sont choquantes à notre sensibilité. Pourtant, notre société accepte sans sourciller l'avortement qui pourtant met fin à une vie. » Je continue. « Ceux qui, auparavant, mangeaient des mets exquis expirent dans les rues, et ceux qui ont été élevés dans la pourpre se couchent maintenant sur un tas de fumier. La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome, qui a été anéanti en un instant, et sans qu'un homme porte la main contre elle. » Versets 5 et 6. Le jugement de Sodome fut une intervention directe et instantanée de Dieu. Elle a donc généré moins de souffrance que le long siège de Jérusalem qui a duré 18 mois. Par rapport à Sodome et Gomorre, le péché de Jérusalem était bien plus grave et donc son châtiment plus sévère. En effet, avec la loi de Moïse, puis par les prophètes, et cela environ pendant 9 siècles, l'Éternel a averti son peuple qu'il serait châtié s'il lui désobéissait. Par contre, les habitants de Sodome n'avaient que leur conscience pour leur dicter ce qui est bien ou mal. La seule personne qui les avait mis en garde, et encore du bout des lèvres, était Lot, le neveu d'Abraham. Mais sa crédibilité était proche de zéro, car il profitait, comme les autres, de tout ce que Sodome avait à offrir. Aujourd'hui, sous nos tropiques, chacun est libre de chercher Dieu et d'étudier sa parole qui est disponible facilement et partout. Mais qui le fait? On se moque de lui en se réfugiant dans une religion de tradition qui, pour la plupart des gens, n'a aucune signification spirituelle. L'animiste qui vit dans sa brousse et qui adore les esprits de la forêt sera jugé moins sévèrement que le Français moyen qui a négligé d'accepter Jésus-Christ. Je continue le texte. Les princes de Sion, ils étaient plus purs que la neige et plus blancs que du lait. Leur corps était vermeil bien plus que le corail, leurs veines de saphir. Leur aspect est plus sombre à présent que la suie. Nul ne les reconnaît maintenant dans les rues. La peau leur colle aux os, elle est devenue sèche comme du bois. Versets 7 et 8. Pendant le siège de Jérusalem, même le dessus du panier, les plus purs, les plus consacrés, les plus forts, les plus saints, les plus nobles parmi le peuple, sont devenus sales, ignobles et faibles. Je continue. Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine, tenaillées par la faim, elles s'épuisent, car les produits des champs leur font défaut. Verset 9. Ceux qui ont péri sur le champ de bataille, après s'être mis un steak sous les dents, ont eu plus de chance que ceux qui se sont éteints à petit feu. Il vaut bien mieux en effet tomber raide mort que languir et mourir de famine ou des suites d'une longue maladie, comme on dit. Mais nul ne choisit son heure, pas même ceux qui prennent leur propre vie, car en réalité, ce sont leurs circonstances qui dictent leur action. Je continue. De tendres femmes de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Verset 10. Jérémie a déjà dit cela, mais il est tellement choqué qu'il y revient. Ses enfants qu'on fait cuire et qui sont mangés étaient eux-mêmes morts de faim. J'ai lu l'histoire de cet avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes. Au bout de quelques jours, les survivants ont commencé à dévorer ceux qui avaient péri dans l'accident. Le cannibalisme n'est pas vraiment difficile à imaginer en période d'extrême famine. Je continue. L'Éternel a assouvi son courroux, oui, il a déversé son ardente colère. Il a allumé un feu dans Sion qui en a consumé les fondations. Verset 11. La conclusion de la première moitié de ce chapitre rappelle que le péché d'Israël était tellement grave que cette fois-ci Dieu ne l'a pas jugé à demi-mesure comme auparavant, mais qu'il l'a entièrement vidé l'abcès. Je continue. Aucun roi de la terre, ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi pourrait franchir les portes de Jérusalem. Verset 12. Les Israélites croyaient bénéficier de la protection miraculeuse de l'Éternel, et c'est ce qui était arrivé quand le roi assyrien Sennachérib avait attaqué Jérusalem. De plus, les rois de Juda, Manassé, Jotham et Ozias avaient renforcé les fortifications de la ville qui passaient alors pour imprenables. Et elle l'était presque, puisqu'il a fallu 18 mois de siège aux Babyloniens pour en venir au bout. Je continue. Cela est arrivé à cause des péchés de ces prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au milieu d'elles le sang des innocents. Mais maintenant ils errent dans les rues tout comme des aveugles. Ils sont souillés de sang si bien que l'on ne peut toucher leurs vêtements. Allez-vous-en, impurs ! Voilà ce qu'on leur crie. Hors d'ici et ne nous touchez pas. Et lorsqu'ils fuient ainsi en errant ça et là, les gens des nations disent qu'ils ne restent pas en ce lieu. L'Éternel en personne les a disséminés. Il ne veut plus les voir. On n'a pas respecté les prêtres, ni eu d'égard pour les vieillards. Versets 13 à 16. Vers la fin du siège, les faux prophètes et les prêtres se sont attirés le mépris général. On les traitait comme des lépreux. Quand l'un d'entre eux arrivait, les passants se criaient l'un à l'autre. « Écartez-vous, voilà un impur !» Certains réussirent à s'enfuir chez les peuples voisins, mais on leur refusait l'asile. Il faut dire que leur culpabilité était double. Non seulement ils avaient commis les pires exactions, mais au lieu de proclamer la parole de l'Éternel, ils furent des prophètes de mensonges et les adversaires les plus acharnés de Jérémie. Maudits de tous et de Dieu, ils ne furent pas épargnés par les envahisseurs qui ne tinrent aucun compte de leur dignité religieuse. Je continue. Et pour nous, nos yeux se sont consumés jusqu'ici après un vain secours. Du haut de nos tours, nous avons regardé vers une nation qui ne pouvait nous délivrer. Verset 17. Les Israélites espéraient que l'Égypte leur viendrait en aide. Aujourd'hui, c'est sur les États-Unis qu'ils comptent. Et Dieu est le grand absent de leur politique. Pourtant, il ne les a pas oubliés. Dans les annales de l'histoire, aucune autre nation n'est revenue dans son pays d'origine après avoir été déportée deux fois. Ils furent exilés d'abord par Babylone et ensuite par Rome. Et aujourd'hui, ils sont dans leur pays. Je continue le texte. Nos ennemis épient la trace de nos pas et nous ne pouvons plus circuler dans nos rues. Notre fin est prochaine, nos jours sont à leur terme. Oui, notre fin arrive. Verset 18. Les Babyloniens ont construit des échafaudages en terrasse devant les murailles de Jérusalem. Ils dominent maintenant la ville et de là, ils épient ceux qui se hasardent hors de leur maison pour leur lancer des flèches ou des pierres et pour surveiller toute tentative de sortie ou de fuite. Je continue. Ceux qui nous poursuivaient ont été plus rapides que l'aigle dans le ciel. Ils nous ont pourchassés sur les montagnes. Ils se sont embusqués contre nous au désert. Notre roi, à qui l'Éternel a conféré l'onction, lui dont dépendait notre vie, a été capturé grâce à leur piège alors que nous disions « Nous vivrons sous sa protection au milieu des nations ». Versets 19 et 20. L'existence de Juda était liée à la royauté issue de David, or elle venait de disparaître avec l'arrestation de Sédécias qui tentait de s'enfuir. Tout comme les Israélites se confiaient de manière superstitieuse en Jérusalem et en son temple, ils plaçaient une confiance exagérée en leur roi du fait de son onction par l'Éternel. Je finis cette complainte qui se termine par une imprécation contre Édom et sur une note d'espérance pour Jérusalem. Tu peux être ravi, communauté d'Édom, et exulté, toi qui habites au pays d'Outz. À toi aussi on passera la coupe, tu seras enivré et tu te mettras toute nue. Ton châtiment aura sa fin, ô communauté de Sion. Dieu ne te déportera plus. Communauté d'Édom, il rétribue tes fautes, il fait paraître tes péchés au grand jour. Verset 22. La faute nationale de Juda est maintenant expiée. Alors que Dieu couvre et pardonne le péché d'Israël, il découvre et met au grand jour celui des Édomites parce qu'ils ont activement participé au sac de Jérusalem. Nous arrivons au cinquième et dernier chapitre du livre des Lamentations qui commence et finit par une prière. Je commence à le lire. N'oublie pas, Éternel, tout ce qui nous est arrivé. Regarde et vois l'opprobre que nous subissons. Notre patrimoine est passé aux mains des étrangers et nos habitations à d'autres. Nous sommes devenus des orphelins de père. Nos mères sont comme des veuves. Versets 1 et 3. Dans ce chapitre, Jérémie utilise un langage poétique ordinaire. Il abandonne même la forme alphabétique dont il ne reste plus comme trace que le nombre de 22 strophes ou versets. Le prophète décrit la dure misère que durent endurer les Israélites à cause de l'invasion babylonienne. Le bon pays que l'Éternel leur avait donné leur a été repris. Le roi, le père de la nation, a été déporté. Parmi ceux qui restent, on compte beaucoup de veuves et d'orphelins, puisque tous les hommes forts sont soit morts au combat, soit exilés à Babylone. Je continue. Nous devons payer, même pour l'eau que nous buvons. Nous rentrons notre bois à prix d'argent. Nous sommes pourchassés par nos persécuteurs qui sont sur notre dos. Nous sommes épuisés. Pas de répit pour nous. Versets 4 et 5. La population pauvre, restée dans le pays, vit sous le joug des Babyloniens. Ces Israélites sont soumis à des taxes qui s'appliquent même aux produits de première nécessité. De plus, ils subissent des exactions. Ça rappelle un peu ce qui se passait en France sous l'occupation nazie de la dernière guerre. Je continue. Nous tendons les mains vers l'Égypte, vers l'Assyrie pour avoir à manger. Verset 6. Après le long séjour de l'armée chaldéenne en Palestine, c'est la dèche car le pays d'Israël est complètement ravagé. Les misérables survivants doivent s'adresser à leurs voisins comme l'Égypte au sud et les pays orientaux au nord pour obtenir des vivres. Je continue. Ce sont nos ancêtres qui ont péché, mais ils ont disparu et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Verset 7. Avec un peu de cynisme, Jérémie confesse vaguement la faute des pères qui furent les premiers à se rebeller contre l'Éternel et qui, donc, commencèrent à remplir la coupe de sa colère. Bien sûr, les générations suivantes n'ont pas davantage écouté les avertissements des prophètes, mais ont continué sur la lancée de leurs prédécesseurs jusqu'à ce que le couperet du châtiment divin tombe. Je continue. Nous sommes dominés par des esclaves et il n'y a personne pour nous en délivrer. Notre pain, nous le rapportons en risquant notre vie, en affrontant l'épée des brigands du désert. Notre peau est brûlante comme si on l'avait passée dans la fournaise, tant la faim nous consume. Versets 8 à 10. Les derniers des subalternes chaldéens dominent en tirant sur les Israélites qui, en plus, à l'époque de la moisson, doivent faire face aux razzias des nomades du désert. Je continue avec la description des souffrances des différentes classes de la population, les femmes et les jeunes filles, les chefs et les vieillards, les jeunes gens et les enfants. Ils ont déshonoré les femmes d'Ancion, des jeunes filles dans les villes du pays de Juda. Ils ont pendu de leurs mains des ministres et ils n'ont eu aucun égard pour les vieillards. Des jeunes gens portent la meule et des enfants trébuchent sous leurs fardeaux de bois. Les responsables ont cessé de siéger à la porte et les adolescents ont délaissé leurs champs. Versets 11 à 14. Dans l'Antiquité, la porte d'entrée de la ville était le lieu habituel des réunions, des délibérations, où l'on se rassemblait pour traiter les affaires, pour rendre la justice et pour se divertir par des jeux et des chants. Mais maintenant, plus aucune institution ne fonctionne. Les femmes sont violées par les envahisseurs qui forcent aussi les enfants à tourner et porter la meule, ce qui était habituellement un travail d'esclave. Je continue. La joie a disparu de notre cœur, le deuil a remplacé nos danses, la couronne est tombée de notre tête, malheur à nous car nous avons péché. Versets 15 et 16. Israël n'existe plus en tant que nation et a perdu sa succession monarchique. La dynastie de David est temporairement interrompue et ne sera pas restaurée avant le retour de Jésus-Christ lorsqu'il viendra pour établir son royaume 2000 ans. En attendant, Israël n'a plus de couronne et tout ce qui faisait sa gloire a disparu, ainsi que la joie. Précédemment, Jérémie a confessé le péché des générations passées. Ici, il reconnaît la culpabilité de la génération présente. Ce péché collectif depuis les ancêtres du peuple explique ce malheur terrible qui a détruit le royaume de Juda. Je continue. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est parce que le mont Sion a été dévasté et les renards y rôdent. Versets 17 et 18. Ces versets forment la transition à la prière qui va suivre. C'est la dernière description du spectacle désolant qu'offre Jérusalem. La colline sacrée sur laquelle jadis s'élevait le temple est déserte. Seuls des renards y habitent. Leur présence sur le lieu même du temple montre à quel point la ville sainte est dévastée. Je continue. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours et ton trône subsiste à travers tous les âges. Verset 19. C'est ici l'apogée du chapitre 5. Le prophète proclame une nouvelle fois la souveraineté de l'Éternel. Jérusalem et la demeure terrestre de Dieu ont beau être en ruine, Jérémie trouve sa consolation dans la certitude que Dieu siège toujours sur son trône céleste, inébranlable, et qu'il gouverne l'univers du haut du ciel. Voilà ce qui constitue pour lui la raison d'espérer et la garantie de l'exaucement de sa prière. Je continue. Pourquoi donc nous oublierais-tu perpétuellement? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Verset 20. Ces « pourquoi » sont des formes de rhétorique qui expriment l'espérance. Jérémie a la conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Je continue. « Ah, fais-nous revenir, ô toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. » Verset 21. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le verbe « revenir » a chez les prophètes un double sens. Il veut à la fois dire le retour de l'exil et le retour à Dieu dans un acte de repentance. Les rétablissements temporels et spirituels sont toujours vus comme une seule et même démarche et elle a Dieu pour origine, car c'est lui qui prend l'initiative et qui rend possible tous les retours. Je finis le livre Lamentation. Nous rejetterais-tu définitivement? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Verset 22. La colère de Dieu envers son peuple ne peut être que temporaire et les questions du prophète exigent pour réponse un non franc et massif. Comme précédemment, son interrogation est l'expression d'une espérance, mais qui prend en compte le mal présent. L'apôtre Paul écrit au sujet d'Israël « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Ésaïe a exprimé la même idée, mais sous une autre forme quand il a dit « S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu, mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte ». C'est le sentiment ferme mais humble qui se dégage des abîmes de souffrance décrit dans le livre des Lamentations. L'auteur gémit, c'est vrai, mais il baigne aussi dans les promesses divines et pour cette raison, il finit ce poème confiant en l'avenir. On dit que l'espoir fait vivre, mais en réalité, c'est Dieu qui fait vivre.